Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. WebAssoc et son parcours vers la libération de son système d'information, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Jouant collectif sur le thème « Peut encore être un artisan du web ?» et aussi la chronique « Que libérer d'autres que du logiciel ?» sur le thème « Une nouvelle vision des activités d'Antanac ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org, april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 11 mai 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, mon collègue Étienne. Bonjour.
Salut.
Depuis quelques semaines, nous avons des nouveaux jingles, notamment un jingle diffusé en début d'émission et un autre diffusé après une pause musicale avec la voix de Laure-Élise Daniel. Aujourd'hui, vous allez écouter la version définitive de ces jingles montés par Samuel Aubert. Les musiques étant Dolling par CyberSDF et Waiting Room de Jazzar. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam. Bonjour Vincent, je te passe la parole.
Bonjour Isabella. Alors, donc le titre c'est « Peut-être encore un artisan du web ». Alors, c'est vrai que j'ai travaillé récemment sur le futur site de l'émission Libre à vous, et plus particulièrement sur l'importation des données existantes, ce qui m'a amené à balayer méticuleusement l'ensemble des émissions passées pour vérifier qu'aucune information n'était perdue au passage. Du coup, cela m'a donné envie de piocher dans quelques séquences à écouter pour m'accompagner lors de l'écriture de mon code informatique. Alors, il y a une petite séquence de l'émission 64 du 28 avril 2020, à retrouver sur le site, qui a retenu mon attention et qui est à l'origine de cette chronique. Dans cette séquence, Étienne Gonu, qui animait l'émission, prend des nouvelles de François Poulain, trésorier de l'April, qui se présente comme artisan du logiciel libre. Alors, François Poulain explique cette jolie formule, artisan du logiciel libre, pour dire, je cite, quand on va voir un usager et qu'on réfléchit à des solutions avec lui, la première chose qu'on écoute, c'est son besoin. On voit l'analogie avec un menuisier qui va vous construire une bibliothèque sur mesure, bien plus adaptée à votre pièce que ce que pourra offrir une bibliothèque préfabriquée du commerce. Mais cette idée d'artisan dans le monde informatique m'a aussi rappelé une remarque que avait fait un jour un collègue et ami qui avait lui aussi une longue expérience de travail avec le monde associatif, et en particulier des sites web. Il me faisait remarquer qu'il devenait de plus en plus compliqué d'être un artisan du web, en comparaison avec les années 2000. Il me prenait comme exemple la sécurité informatique. Il avait été contacté par des avocats qui travaillaient dans des pays sensibles et qui devaient donc être très précautionneux sur la confidentialité des échanges, et lui ne pensait pas avoir les compétences suffisantes et les reins assez solides pour répondre à leurs demandes. On pourrait donner d'autres exemples où le niveau de technicité, d'exigence, ou de sécurité ou d'ergonomie rend le ticket d'entrée particulièrement élevé. Par exemple, gérer un serveur de courriel est loin d'être simple si on veut que ces courriels ne soient pas traités comme indésirables par les gens du secteur. De là, ma question initiale, peut-on encore être un artisan du web ? Est-ce que nous ne sommes pas face à un processus inéluctable d'industrialisation et d'uniformisation qui rend le travail artisanal marginal ? On pourrait faire une analogie avec l'automobile. Les premières automobiles sont sorties à la fin du 19e siècle, de petits ateliers, avec une grande variété de formes et de styles. En comparaison, nos voitures modernes se ressemblent toutes et manquent singulièrement de d'âme et de charme. Bon, bien sûr, l'industrialisation ne manque pas davantage, à commencer par le prix. C'est par la standardisation dont Ford a été le fer de lance entre les deux guerres que la voiture est devenue accessible à tous. On ne se plaindra pas non plus que les voitures soient soumises à homologation et qu'il ne soit pas autorisé de faire rouler n'importe quoi sur les routes. Et ce n'est pas plus mal que d'un modèle à l'autre, les tableaux de bord reprennent les mêmes éléments. Devoir passer une demi-heure à comprendre l'emplacement des différents éléments de la conduite quand on se met au volant d'un nouveau véhicule serait assez pénible. Alors, pour revenir au web, cette uniformisation est en marche. On en croit les parts de marché, par exemple, de WordPress, qui serait de 2 sites sur 5, d'après un site qui s'appelle W3Tech. Bon, j'ignore quelle valeur on peut donner à ces chiffres, on peut sans doute en discuter, mais de ma part, bon, de mon expérience personnelle, il semble crédible. Cela dit, bon, WordPress est un logiciel libre, on peut donc plutôt se réjouir de son succès. Surtout face à la plus grande offensive d'industrialisation et d'uniformisation du web qui soit, je veux parler des pages Facebook. Créer une page Facebook est très simple, c'est incontestable. Tout comme il est incontestable, cela enferme les créateurs et interdit toute approche artisanale. Si tout devenait page Facebook comme le rêve cette entreprise, nous n'aurions plus qu'à mettre la clé sous la porte. Bon. Je vais quand même terminer par une note optimiste. Bon, je pense que mon analogie avec le secteur automobile n'était pas très encourageante. Mais je pense qu'il en va autrement si je fais une analogie avec un autre secteur, celui de la restauration. Dans la restauration, nous avons de la malbouffe ultra standardisée. Je ne cite personne, mais ça, c'est Facebook. Nous avons de la cuisine dite d'assemblage, c'est-à-dire où le cuisinier se contente d'utiliser des produits préparés, semi-préparés, et il assemble du surgelé. C'est un peu WordPress, si on veut. Et il y a, heureusement, la cuisine traditionnelle, où la normalisation est bannie, et où c'est l'approche artisanale qui règne en maître. Bien sûr, la cuisine traditionnelle est plus chère, prend plus de temps, et réservée aux grandes occasions. Je pense que c'est là aussi l'avenir des artisans du web. Face au rouleau compresseur de l'uniformisation, je pense qu'il existera toujours une niche où nous pourrons proposer une approche différente et du sur-mesure.
Merci beaucoup à Vincent Calam pour cette chronique consacrée au futur, s'il y en a un, des artisans de web. Je suis contente pour la note positive que tu as choisi de partager avec nous à la fin de la chronique. Est-ce que tu te sens un artisan du web, du coup ?
Oh, oui, je suis un artisan du web. Bon, je crois que comme la chronique se passe en début d'après-midi, c'est plus facile de parler de restauration que juste avant le repas, parce que sinon on aurait eu d'autres choses en tête.
C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Vincent, et à très bientôt pour la prochaine chronique Jouons collectif. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter 70 ans après la mort par L'âme spirale sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3. Avec ce morceau, l'artiste a essayé d'appliquer la logique des droits d'auteur à la parentalité. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Leur faire tâter, signer les parents, les droits d'auteur sur moi jusqu'à 70 ans après leur mort. Patron, chaque fois que j'ai une idée, il doit payer des droits d'auteur, un pourcentage sur la valeur. Mes parents, des droits d'auteur sur moi jusqu'à 70 ans après leur mort. Qui me présente, il doit dire qu'il a un copyright, il a un copyright, il a un copyright. Il doit dire ses parents, des droits d'auteur sur lui jusqu'à 70 ans après leur mort. Quand j'aurai un fils, il sera sous licence libre. Non, il appartiendra à mes parents, des droits d'auteur sur lui jusqu'à 70 ans après leur mort. Des droits d'auteur sur moi jusqu'à 70 ans après leur mort. Des droits d'auteur sur lui jusqu'à 70 ans après leur mort.
Nous venons d'écouter 70 ans après la mort par L'âme spirale. C'est un morceau que personnellement je trouve presque hypnotique. Je pourrais l'écouter en boucle et d'ailleurs je crois l'avoir déjà fait. Ce morceau est disponible sous licence libre Creative Commons CC BY CA 3.0, donc attribution et partage dans les mêmes conditions. Ce qui permet donc la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans les cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou créez à partir du matériel utilisant cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'association WebASOC et plus particulièrement sur son parcours vers la libération de son système d'information avec nos invités Alexandre Hubert, présidente bénévole de WebASOC, et Jean-Luc Mahé, responsable bénévole des systèmes d'information de WebASOC qui interviennent à distance. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. L'échange sera animé par Laurent Costi, administrateur de l'April, qui est avec moi en studio. Bonjour Laurent, je te passe la parole.
Bonjour Isabella, merci pour la parole. Alors peut-être pour commencer, moi-même je ne sais pas très bien comment on prononce WebASOC, WebASOS, WebASO, enfin donc les deux invités vont nous le dire pour introduire le sujet. Est-ce que Alexane et puis Jean-Luc, vous m'entendez ?
Je t'entends. Bonjour à tous.
Bonjour Alexane, Jean-Luc.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Luc. Alors bah peut-être. Alors évidemment pour commencer l'émission, ça me semble extrêmement important que vous puissiez vous présenter ce que vous êtes à l'association. Évidemment préciser comment on prononce le nom de l'association et puis nous donner un petit peu de parcours dans cette association, comment vous y êtes arrivé et puis ce que vous y faites. Alexandre ?
Oui. Alors pour la prononciation, je vous avoue que on n'est pas tous d'accord. Moi, j'aurais tendance à dire WebASO, mais je sais que beaucoup de personnes disent WebASOS. Donc, on va dire un petit peu chacun le prononce comme il veut.
Merci.
Pour la présentation, du coup, moi, je suis de base photographe scientifique au CNRS, donc très loin du milieu associatif. Passionné du web et webmaster, donc orienté Drupal, un magnifique outil libre. Et je suis arrivé chez WebASOS un petit peu par hasard. J'avais un petit peu de temps libre, mais pas trop. Je me sentais pas de m'engager dans une association à temps plein. Et WebASOS propose des petites missions sur du court terme. Donc j'ai commencé en remplissant une demande pour aider la mise à jour des flyers de communication de l'asso. Et puis bah voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé là.
Tu t'es retrouvé président de l'association, ce qui est quand même un beau parcours au sein de l'association.
Bonjour à tous. Alors...
Jean-Luc, vas-y, je t'en prie.
Ah, Jean-Luc. Ok, donc moi je suis plutôt WebASOS, hein, donc pour répondre à Alexandre. Et moi je viens du domaine, pas du tout, je ne suis pas du tout informaticien, hein, je suis dans le sujet des infrastructures. Et je suis par contre intéressé par le libre depuis longtemps. Je trouve que c'est une vraie réponse au monde associatif. Et je suis arrivé à WebASOS via un outil qu'on utilise aujourd'hui qui est CiviCRM. Je pense qu'on en reparlera, qui est un CRM libre. Et donc, la présidente de l'époque, Raphaël, m'a sollicité sur le forum sur lequel je traînais pour venir, comme Alexandre, faire quelques missions et puis de fil en aiguille. Je me suis retrouvé en charge du système d'information et de la bascule des outils de WebASOS vers le libre.
Merci Jean-Luc, il faudra expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un CRM. Alors maintenant que vous êtes présenté, on va passer à l'objet de l'association elle-même. Vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est vrai que ça peut être important que Alexandre précise quel est l'objectif de cette association et puis un peu son histoire, depuis quand elle est créée.
Oui, alors désolé Jean-Luc, hein, moi je vais rester sur WebASO. WebASO du coup a été créé en 2013 donc par l'ancienne présidente Raphaël. L'idée en fait qu'elle a eue, c'était de réunir une communauté d'experts du web, du digital, pour venir en aide aux associations de façon donc totalement bénévole. Et donc pour renforcer un petit peu cette idée du bénévolat, WebAsso n'a aucun financement, donc on est vraiment tous bénévoles, et donc on a une communauté d'environ 2000 experts du web sur différents sujets. Ça va de la création du site internet, aux réseaux sociaux, la création de flyers, le contenu, enfin énormément, tout ce qu'on peut faire en fait depuis un ordinateur. Et donc on met cette communauté de bénévoles à disposition des associations pour leur venir en aide de façon ponctuelle. Donc voilà, des petites missions assez rapides.
D'accord, merci Alexandre. Est-ce que au début de la création de l'association, l'orientation logiciel libre était déjà ancrée? Est-ce qu'elle est venue après? Alors c'est quelque chose que... Enfin, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce parcours?
Alors je sais pas si j'aurais l'historique exact et si c'était vraiment bien ça à la base, mais je pense que au début Raphaël a fait un petit peu avec les outils qu'elle trouvait. Pour le site internet, on est sur WordPress, donc là ça va niveau libre, mais par contre on a pendant très longtemps utilisé la suite Google par exemple. Donc voilà, je pense qu'au début l'idée c'était vraiment de faire en sorte que WebAsso puisse s'en sortir grâce à des outils pas forcément libres.
D'accord. Et depuis 2013, du coup, comment se fait ce choix des outils?
Voilà,
et
moi là-dessus, donc.
Vas-y, un léger décalage avec Jean-Luc, c'est un peu compliqué, mais vas-y Jean-Luc, tu as la parole.
Ok. Donc, comme expliqué Alexandre, on a surtout d'abord travaillé sur l'usage. Hein. On a utilisé ce qui correspondait à ce dont on avait besoin. Et moi, en arrivant et en ayant cette culture du libre, j'ai à proposer des solutions, hein, un peu comme la Framasoft de son côté, mais de manière beaucoup plus large. Et petit à petit, on a remplacé chacun de nos outils par des outils libres. Donc on était déjà avec WordPress sur de l'outil libre. On a une grosse base qui était Nextcloud, notre système de collaboration. Ensuite, on a aussi regardé tout ce qui est aspect visioconférence. Et on en parlera après. Le dernier morceau qu'on vient de basculer, qui est un morceau assez important pour nous, puisque comme on est une communauté complètement décentralisée, c'est la messagerie instantanée. Donc on est passé tout récent de Slack à RocketChat.
Merci Jean-Luc. Qu'est-ce qui a été déterminant un peu dans cette orientation vers le logiciel libre pour les associations? C'est quoi qui a été déclencheur, qui a fait que vous y êtes engagé et que vous avez poursuivi dans cette voie?
Alors, je me permets, Alexandre, de y aller. En fin de compte, comme l'a expliqué Alexandre, WebAsso portait ce message. Mais dans les faits, entre guillemets, c'était « faites ce que je dis et pas forcément ce que je fais ». Donc, ça a été quand même une volonté portée par le bureau à l'époque, dont je ne faisais pas encore partie, qui a voulu être en cohérence au niveau des outils qu'il utilisait par rapport au discours qu'il pouvait porter. Voilà. Et vis-à-vis de ça, donc la tâche m'a été confiée et on a travaillé sur deux aspects. Un aspect référentiel, donc on utilise le référentiel qui s'appelle la CIL, Socle interministériel des logiciels libres, qui est une liste établie par des DSI de l'État sur un usage, une solution libre. Et une feuille de route. Qui a été vis-à-vis de ça, le temps qu'on s'est donné pour basculer tel et tel outil vis-à-vis de ce référentiel.
D'accord, merci Jean-Luc pour cet aspect des choses. Alors là, je reposerai plutôt la question à Alexandre. Comment on fait pour à la fois répondre à l'objet d'une association et puis avoir au sein du bureau une personne qui n'arrête pas de vous faire changer d'outil, qui vous bouscule, qui vous dit « bah non, celui-là, il est moins bien que celui-là parce qu'il n'est pas libre, donc il faut prendre du libre, etc. » Comment on arrive à jongler au quotidien? Parce que par expérience, j'ai vu dans des associations que ça pouvait être vraiment très très gênant au quotidien, hein, cette volonté de certains de vouloir aller vers du logiciel libre et puis pour d'autres de se dire on n'a pas le temps, il faut qu'on réponde à notre objet associatif. Comment on arrive à articuler ça pour que ce soit viable pour tout le monde?
Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire suivre déjà tout le monde sur les différents outils. On peut pas se permettre de changer d'outil tous les 3-4 matins. Après, je pense qu'on a quand même, c'est dans notre ADN hein, chez WebAsso, de tester des choses, d'essayer d'aller vers le libre. Et du coup, notamment pour ce dernier outil, quand on est passé de Slack à RocketChat, ça a pas été simple et on a, je pense, perdu quand même quelques personnes en route, malheureusement. Mais tout le monde a voulu suivre parce que, en plus, c'était au moment où Slack était racheté, donc c'était pas c'est pas forcément un bon moment au niveau des données, on savait pas trop ce que ça allait faire. Donc ça, ça s'est fait assez facilement. Après, au niveau du choix des outils, je vous cacherai pas que de temps en temps, il faut que je freine un petit peu Jean-Luc qui a envie de tout tester, de tout mettre en place et des fois de sortir des outils qui sont peut-être un peu trop gros pour l'utilisation qu'on a. Donc voilà, il y a un petit travail de cadrage, on réfléchit un petit peu aux outils, on réfléchit vraiment à quel est notre besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une machine de guerre alors que finalement un petit truc suffirait. Et puis une fois qu'on a une bonne idée, on teste, et puis si le test est concluant, on y va du coup.
D'accord, merci. Alors donc si je retiens un peu en tout cas ce qui a marché chez WebASOS, c'est le fait qu'à la fois il y a bien eu une décision politique dans l'instance de décision de l'association, et puis à partir du moment où la décision a été prise, les compétences ont été trouvées au sein de l'association. Et donc c'est bien cette, si je comprends bien, si je traduis bien ce qui s'est produit, c'est bien cette combinaison des deux aspects, à la fois l'aspect technique et à la fois l'aspect politique, qui a fait que en tout cas ça s'est enclenché et que actuellement ça se poursuit et plutôt vers un objectif qui tend vers le logiciel libre, quoi. C'est bien ça?
C'est exactement ça, ouais.
D'accord. Merci beaucoup. Alors du coup, vas-y Jean-Luc, tu voulais compléter peut-être?
Non, c'est exactement ce qui a été évoqué, c'est-à-dire l'exemple que citait Alexandre est un bel exemple où moi je serais plutôt parti vers Matrix, qui est une messagerie instantanée, décentralisée, enfin voilà, extrêmement vertueuse, et on est revenu à RocketChat, qui était quand même, tout en étant libre, beaucoup plus proche de l'outil qu'on utilisait précédemment, qui est Slack. Et ça, c'est c'est vraiment important de le regarder. Alors, c'est difficile en tant que fadal technique de s'auto-limiter. Mais oui, il faut rester en cohérence et en continuité par rapport aux usages précédents.
D'accord, merci. Alors dans le chat, on nous pose la question du nombre de personnes dans la communauté entre guillemets de WebASOS. Alors il y a déjà une première réponse qui a été donnée, hein. J'ai entendu tout à l'heure 2000 bénévoles. C'est vrai qu'on peut redire peut-être quand même le fonctionnement un peu particulier de l'association. Alors particulier non pas parce qu'elle n'a que des bénévoles, mais parce que c'est un choix assumé et que en tout cas à ce jour, il ne devrait pas y avoir de permanence et pas dans les projets de l'association.
C'est ça. Alors, niveau chiffres, si on veut en donner, on a à peu près une cinquantaine de bénévoles WebASOS qui sont sur différents sujets, notamment le sujet technique, mais aussi tout ce qui est accompagnement bénévole et association, parce que c'est quand même un petit peu la base de notre association. Et puis donc on a pour chaque bulle, donc pour chaque équipe, on a un responsable. Cette responsable fait partie d'un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage élit son président, soit dans ses membres, soit en dehors.
D'accord, merci beaucoup. Alors je voudrais, juste pour clore peut-être un peu sur les parcours, je voulais savoir s'il y avait eu un moment déclencheur dans la vie de Jean-Luc qui a fait qu'à un moment donné, il s'est tourné définitivement vers le monde du libre, ou si finalement c'est au fil du temps qu'il s'est convaincu que c'était la voie qu'il fallait suivre. Enfin voilà, je repense à Richard Stallman qui a eu une prise de conscience en se battant avec une imprimante. Est-ce que tu as eu un moment comme ça dans ta vie où tu t'es dit, mais en fait, la voie c'est le libre?
Alors c'est un peu ça quand même, alors pas au niveau de Richard Stallman, mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai trouvé important de pouvoir utiliser des PC qui traînaient chez moi, et donc je me suis intéressé à la manière dont on pouvait le faire, et notamment une distribution qui s'appelait Mabuntu, qui est vraiment orientée reconditionnement, et donc Mabuntu m'a amené déjà à comprendre que un PC, ça peut être bien autre chose qu'un déchet. Ça peut tout à fait répondre aux besoins quotidiens sans avoir besoin de réinvestir et de recréer pour le coup un déchet supplémentaire. Et en plus, comme c'est une distribution qui est bien fournie en logiciel, là, ça m'a amené à découvrir plein de merveilleux outils et en tout cas à comprendre que ça faisait exactement la même chose que ce que je pouvais avoir sur mon environnement professionnel. Et en parallèle, je suivais également l'association Framasoft, qui avec sa campagne d'Egovision a clairement montré également qu'on pouvait prendre tous les services proposés par Google et leur mettre en face une réponse équivalente.
Alors est-ce que, pour terminer là-dessus, est-ce que les révélations d'Edward Snowden en 2013 ont eu un impact, ou est-ce que ça a fait que accélérer finalement déjà un cheminement?
Alors, c'était, en tout cas, moi, personnellement, déjà un cheminement qui était là. Alors, plus que l'aspect sécurité des données, moi, ce que je trouve très important dans le livre, c'est de séparer la notion de logiciel et d'hébergeur et d'avoir ce choix d'hébergeur et de pouvoir choisir son hébergeur, en changer, mais surtout prendre celui qui est le plus proche de chez soi. Et par exemple, celui, notre hébergeur qui héberge Nextcloud, moi, je l'ai rencontré physiquement, j'ai pris un café avec lui et c'est quand même très sympathique, en tout cas plus rassurant de pouvoir discuter en physique avec son hébergeur.
Oui, un petit peu comme les commerces de proximité et puis ces circuits courts qu'on n'arrête pas de nous vanter. Donc effectivement, on rejoint un peu cette logique-là. Alors du coup, par rapport à cet objet, on l'a déjà peut-être un peu évoqué, mais évidemment que l'un nourrit l'autre, à savoir l'objet de l'association vis-à-vis des structures que vous aidez. Est-ce que vous faites la promotion des outils libres aussi quand vous allez appuyer des associations?
Oui, on va essayer. Il faut savoir que les associations qu'on aide, c'est pas des grosses associations. On va plutôt essayer d'aider des petites ou des moyennes associations qui vont pas forcément avoir les moyens de se payer un prestataire. Et donc forcément, ces associations-là vont pas non plus avoir les moyens de dépenser énormément d'argent dans des outils. Donc l'expertise qu'on peut avoir et les tests qu'on peut faire de notre côté apportent des fois des réponses aux associations. Et forcément, quand on les voit, par exemple, qui se dirigent vers Google Analytics pour analyser le trafic sur leur site, on va leur dire, vous savez, il y a d'autres outils qui existent et qui sont beaucoup plus propres, et au moins vous arrêteriez un petit peu de donner des infos à Google, et ça pourrait être intéressant. Donc oui, je pense qu'on en parle quand même beaucoup autour de nous.
Jean-Luc, éventuellement, non, tu as quelque chose à ajouter?
Oui, donc comme l'a expliqué le bel exemple, c'est ce que vient de dire Alexandre. Donc on a commencé à s'intéresser à notre outil que Google Analytics. Donc celui qui vient en tête, c'est Matomo. Et le bénévole, enfin on a un bénévole qui est Roland Chardonneau, qui régulièrement vient faire des formations en ligne, présentielles ou en ligne, sur cet outil. Et on a vu grimper, donc entre guillemets, basculer le nombre de personnes intéressées des formations Google Analytics, qu'on continue quand même à proposer, parce qu'on est vraiment orienté association. Donc le but, c'est pas de dire oubliez ça, mais c'est bien d'offrir la on va dire les deux possibilités, et espérer que au fur et à mesure que les gens vont comprendre que Matomo est une réponse équivalente et en tout cas plus vertueuse, eh ben le nombre de participants sur la formation Google Analytics s'éteignant, eh ben on arrêtera la formation.
D'accord, merci. Est-ce que avec le recul que vous avez à WebASOS par rapport aux premières interventions que vous faisiez, est-ce que vous voyez une prise de conscience des petites associations que vous aidez? Est-ce que vous les sentez vouloir aller vers le libre ou en tout cas d'entrer, donner des besoins en lien avec le logiciel libre?
Je sais qu'on a de temps en temps en effet quelques demandes de personnes qui ont besoin de formation sur Nextcloud et qui viennent d'elles-mêmes nous voir. Moi, pour avoir fait quelques renforts web ces derniers temps et avoir aidé des associations, notamment sur ce sujet du Google Analytics, là dernièrement, il y a une association qui était sur Analytics, du coup, et je lui ai proposé de passer sur Matomo en lui expliquant un petit peu le pourquoi du comment, et l'association a tout de suite dit oui, qu'en effet, ce serait une bonne idée, et c'est pas la seule dans cette dynamique-là. Donc je pense qu'il y a quand même avec toute la publicité qui se fait en ce moment sur les réseaux, sur les données, sur ce genre de choses, je pense que les associations prennent quand même conscience, même si elles essayent aussi d'avancer, et des fois les outils qui sont le plus mis en avant, comme Google, prennent le pas malheureusement parce qu'elles n'ont pas le temps ou les compétences pour aller voir ailleurs, ou la curiosité même, tout simplement.
D'accord, merci. Alors du coup, j'en profite pour faire une petite annonce. Hein,
je compléterai en disant que...
Vas-y, termine Jean-Luc, je t'en prie.
Ouais, je compléterai en ce que disait Alexandre, en disant que souvent les associations, elles n'ont pas le niveau de technicité qui leur permettent d'avoir cette prise de conscience. Ça, c'est dans leur tête, clairement, et dès lors qu'on leur apporte des solutions, elles prennent. Et si, entre guillemets, j'ai un conseil que je peux donner, c'est de commencer par le bureau et de faire en sorte que le bureau, en plus, souvent, les échanges du bureau sont des sujets quand même parfois qui peuvent être ou sensibles, en tout cas qu'on n'a pas envie de retrouver sur des endroits qu'on n'a pas choisi, et donc c'est le bon endroit pour démarrer. C'est un espace petit avec peu de personnes concernées qui sont faciles à faire converger. Et souvent, quand ça commence, après, il y a une prise de conscience qui fait que l'association va commencer à se dire, bah tiens, d'autres outils, est-ce que je peux mettre mes photos ailleurs que sur Flickr? Bah oui, il y a Pubigo. Est-ce que je peux faire des enquêtes avec un outil libre? Bah oui, il y a LimeSurvey, etc., etc.
D'accord, alors du coup, je fais la petite annonce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Vous avez parlé de Matomo tout à l'heure. En fait, ce sera les invités. Enfin, Ronan Chardonneau viendra parler de Matomo, pardon, le 22 juin prochain avec Alexandre Bulté d'Etalab. Voilà, donc du coup, ça rebouclera avec ce sujet qui effectivement est important pour éviter de trop nourrir, de continuer à nourrir les GAFAM qui sont déjà bien trop gavés à mon goût. Alors, bon, on a déjà un peu évoqué le sujet, mais. Par rapport à la facilité de la transition, donc visiblement les membres de l'association, en tout cas fortement impliqués, sont déjà sensibilisés au numérique. Donc vous avez déjà évoqué le fait que la chose est relativement aisée à cause de ça. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand même pour justement faire que les outils libres soient adoptés, Alexandre?
C'est une très très bonne question pour le coup. Je pense que c'est faut avoir quelqu'un dans l'équipe qui est très curieux et qui se donne un petit peu le temps d'aller tester ces outils libres, de les découvrir. Et à partir du moment où cette personne a le temps de les découvrir et trouve le sujet intéressant, je pense que derrière la parole est un peu plus simple et c'est plus simple de conseiller. Nous typiquement à Webasso, si on n'avait pas Jean-Luc pour nous dire oh là là, je viens de tester tel outil, c'est trop bien, c'est libre, en plus on a les données chez nous, ce serait bien qu'on l'utilise, ça pourrait remplacer ça où on donne des données, il faudrait pas, voilà, testons, je vous le mets en place, je vous le mets sur l'endroit et on y va. Donc il faut vraiment, il faut cette personne qui motive un peu tout le monde et qui propose les tests. Je pense que c'est vraiment ça, tout se base sur les tests, je pense vraiment sur les outils libres. Une fois qu'on les a testés, je pense qu'on adhère tout de suite, quoi.
On adhère tout de suite. Par rapport à la formation, qui est quand même aussi un nœud de ce que vous faites, vous prévoyez systématiquement de l'accompagnement, de l'aide quand vous mettez en place un nouvel outil, ou c'est pas nécessaire peut-être au sein de l'association?
Ça dépend les personnes qu'on a en face dans l'association et quel est leur niveau technique, parce qu'autant côté Webasso, il n'y a pas de souci, on a tous l'utilisation d'un ordinateur très facilement, mais c'est pas forcément le cas des associations pour qui naviguer sur le web c'est encore un peu compliqué. Donc pour ce genre d'association, on met en place les outils, on leur explique bien sûr un peu comment ça fonctionne pour qu'elles puissent s'en servir, mais on va peut-être un petit peu moins leur expliquer comment faire les mises à jour, enfin vraiment la partie technique derrière. Que là on va peut-être réserver sur des formations un peu plus complètes pour des associations qui ont justement cette personne un peu moteur au niveau du libre.
D'accord, en tout cas ça conforte ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, vraiment l'importance d'avoir à la fois l'aspect technique et l'aspect politique prégnant, sinon si on n'a qu'un des deux maillons de la chaîne, ça risque de ne pas fonctionner. En tout cas cet exemple là montre bien que le lien est important. Peut-être que, bah évidemment, on essaye des choses, hein, c'est l'expérimentation, c'est ce qu'expliquait Jean-Luc tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez nous raconter la plus grosse difficulté que vous avez eue dans cette démarche de migration vers le libre, Jean-Luc?
On l'a évoqué tout à l'heure, hein, pour moi c'est la messagerie instantanée qui est vraiment un système aujourd'hui, même sur le libre, assez cloisonné. Il n'y a pas vraiment de solution ou de... générique qui se dégage, il n'y a pas de WordPress, il n'y a pas de Nextcloud, et donc on s'enferme quelque part tous dans des espaces, et ça c'est peut-être le truc que je trouve le plus dérangeant. Alors j'espère beaucoup que la fédération intermessagerie instantanée est quelque chose qui va se développer. Il y a des gens dans le libre qui bossent sur ce sujet-là, et ça serait vraiment top.
Oui, quand tu dis la fédération, c'est tout ce qui est lié alors à ce qu'on appelle le fait divers, où tous ces outils s'interconnectent, quels qu'ils soient, en fait. C'est ça qui fait la force un peu du réseau décentralisé. C'est un peu ça la logique, hein, que tu évoques.
C'est exactement ça. Faut voir qu'aujourd'hui, personne ne se pose la question quand il envoie un mail, de qui l'envoie et de qui le reçoit. Bah, aujourd'hui, quand vous chattez sur une messagerie instantanée, vous êtes en train de discuter dans un espace qui, certes, où il y a peut-être les gens que vous souhaitez côtoyer, mais qui reste quand même très fermé, ou en tout cas, c'est pas votre choix que de l'ouvrir, vous subissez un peu. Voilà, et il faut avoir WhatsApp parce que vous avez des gens qui sont sur WhatsApp, Slack parce que vous avez des gens qui sont sur Slack, et RocketChat parce que votre association est sur RocketChat.
D'accord, donc effectivement, il y a beaucoup de choses en ce moment qui essaient de faire converger les outils différents pour qu'ils puissent être interconnectés et interopérables, ce qui facilite quand même grandement les choses. Chacun peut avoir son outil, mais peut quand même se connecter aux autres outils. Donc, peut-être que tu pourrais parler avant la pause musicale de CiviCRM qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, expliquer ce que c'est qu'un CRM et puis votre expérience par rapport à cet outil.
Oui, donc Civi, un CRM, c'est, alors j'essaie de le dire en anglais, mais c'est Customer Relation Management. En fin de compte, c'est la gestion donc d'une clientèle. Donc, il y a des tas de CRM qui existent. Un propriétaire, c'est Salesforce, donc le plus connu. En libre, il y a Suite CRM, il y en a Sugar CRM. Et il y a un CRM qui est un peu particulier, qui s'appelle Civi CRM, qui est orienté association. C'est-à-dire que dedans, on ne va pas parler prospect, on va pas parler entreprise, on va parler particulier, on va parler organisation et on va parler foyer. Voilà. Donc toute la terminologie de ce CRM est orientée vers le monde associatif. Et gros avantage, c'est qu'il est libre et on l'interface avec un CMS, Content Management System, comme WordPress qu'on vient d'évoquer, ou Drupal qu'a évoqué donc Alexane, qui va faire le frontal. Aujourd'hui, cet outil, il est très puissant, il est très utilisé aux États-Unis, au Canada, assez peu en France. Et c'est clairement un outil qui correspond à ce que nous, on chercherait. Mais on a du mal à avancer dessus parce que l'écosystème autour du logiciel est encore assez faible en France. Et c'est compliqué pour la communauté étant assez restreinte pour échanger et pour progresser. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est vraiment quand on regarde un peu les possibilités de l'outil, elles sont vraiment très puissantes. C'est-à-dire, ça peut gérer de listes de diffusion, ça peut gérer de l'appel à don, ça peut gérer toutes les listes de vos bénévoles, et ça de manière assez assez pointue et assez interactive.
À partir de combien d'adhérents tu conseilles cette solution quand même ? C'est peut-être pas les toutes petites associations ?
Oui, tout à fait. Alors. Donc ça, c'est une solution qui requiert quand même d'être un certain nombre. Donc nous, on est 2000. Je dirais que dès qu'on est au-dessus de 500, et en tout cas vers 1000 contacts à gérer, ça a un sens. Pour des solutions beaucoup plus faibles, hein, une association qui a 200 adhérents, 300 adhérents, on va beaucoup plus leur conseiller, en tout cas moi c'est ce que je ferais, des solutions comme Galette, qui est un outil libre, ou comme Garadin, qui est un outil libre également, qui font très bien l'affaire. Et en plus, on a des fonctionnalités supplémentaires sur la comptabilité, des choses comme ça.
Parfait. Bah écoute, on va faire une pause musicale. Juste dire que par rapport aux messageries instantanées, il y avait eu un sujet le 26 janvier dernier dans l'épisode 91. Donc si vous, jamais vous souhaitez en savoir plus, référez-vous à cet épisode. Et je repasse la parole à Isabella.
Merci Laurent. Donc nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter un autre morceau de L'âme spirale. Un artiste que j'ai découvert sous le site dédié à la musique libre Dogmazic. Le titre de ce deuxième morceau est Torrent numérique, toujours sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. On a contacté l'artiste qui nous a dit « Avec ce morceau, j'ai essayé de trouver de la poésie à la numérisation » qui était encore assez nouvelle à l'époque. Le morceau date en effet de 2009, sauf erreur. C'est encore critiqué, nous dit l'artiste, alors qu'au final, cela ne vient pas en camion. C'est l'un des points forts identifiés par l'artiste. Et vous retrouverez cette phrase dans le morceau que nous allons écouter. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Thank you.
viens pas en camion.
D'écouter Torrent Numérique par L'Âme Spirale, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Isabelle Lavani, je redonne la parole à Laurent Costi qui anime le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui consacrée à Webasso ou Webassos et à son parcours vers la libération de son système d'information avec nos invités Alexandre Hubert, président bénévole de Webasso, et Jean-Luc Maher, responsable bénévole des systèmes d'information de l'association. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. À toi Laurent.
Merci Isabella. Juste avant la pause musicale, on avait une question sur savoir comment s'installait CiviCRM. Je pense que c'est pas inintéressant de pointer cet aspect-là des choses. Il faut savoir que de plus en plus d'hébergeurs finalement proposent des outils de ce type-là qui s'installent en 2-3 clics. Donc n'hésitez pas à regarder parfois dans votre fournisseur d'accès, dans votre fournisseur de domaine et d'hébergement si ces outils-là ne sont pas accessibles facilement. Ça peut vous simplifier la vie dans vos associations. Et Jean-Luc, si tu veux préciser éventuellement pour CiviCRM.
Alors, en fin de compte, CiviCRM, ça s'installe sur un WordPress comme un gros plugin. Donc, c'est un mode d'installation qui est un peu particulier, mais ça, du fait que c'est du WordPress ou du Drupal ou du Joomla, puisque ça existe sur les trois plateformes, ça peut s'installer chez la plupart des hébergeurs classiques.
D'accord, merci pour ces précisions techniques, mais finalement, je pense que c'est intéressant de le dire parce que certaines associations cherchent compliqué alors que parfois la solution est assez simple chez l'hébergeur, quoi. Ou par le plugin pour WordPress, par exemple. Alors, on parlait tout à l'heure des plus grosses difficultés que vous aviez rencontrées, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être les plus belles réussites de WebAssos. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Alexandre ? Ou Jean-Luc ? Je ne sais pas qui est le plus à même de raconter ça.
Ouais, moi je veux bien. Moi, ce que je trouve vraiment chouette et sur lequel on s'est vraiment amélioré chez Webasso, c'est la visio. Moi, j'ai ce souvenir des premières réunions. C'était vraiment très compliqué parce que, donc, comme on n'est pas forcément tous sur Paris, on est un petit peu partout. On faisait ça, en partie en visio, par téléphone. On n'avait rien de stable. Le son était vraiment pas terrible. Ça coupait sans arrêt. C'était très 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 compliqué. Les réunions duraient 2 heures. C'était vraiment. À la fin, on sortait, on était fatigué, quoi. C'était vraiment très très compliqué. Et aujourd'hui, du coup, on est passé donc sur BigBlueButton, qui est une solution libre. Et qu'on avait installé et on n'a plus aucun problème et du coup on en rigole à chaque réunion parce que on arrive à faire des réunions de moins d'une heure où tout se passe bien, personne n'est déco, le son va bien, il n'y a plus aucun problème. Donc je trouve que l'évolution sur ce sujet chez nous est vraiment top.
D'accord, et vous faites des réunions jusqu'à combien de personnes sur BigBlueButton, juste à titre indicatif?
On a fait notre événement annuel, le WADEC, en début d'année, et je crois qu'on est monté à une soixantaine de personnes en même temps.
D'accord, avec du descendant, une présentation et puis des interventions, d'accord. Non, bah c'est donc sur vos propres serveurs, donc sur votre hébergeur, enfin chez votre hébergeur, c'est ça, hein, Jean-Luc peut-être expliciter un peu la manière dont vous avez...
Oui, alors le choix qu'on a fait, ouais, c'est ça. Alors, le choix qu'on a fait, hein, c'est que on aurait tout pu mettre chez le même hébergeur, dans un souci d'être toujours dans une solution à la portée d'une association qui nous questionne. On a choisi de mettre notre exclu de chez un hébergeur, ce qui fait que ça, voilà. Nos services web sont chez un hébergeur, qui fait que ça aussi. Et pour les services plus techniques qui sont BibliBlueton, là pour le coup, on a des machines virtuelles. Hein, donc le premier hébergeur en exclude, c'est un hébergeur de Niort, Yon.net. Notre hébergeur web, c'est Odeswitch qui est à Clermont-Ferrand. Et nos machines sont chez Gandhi. Donc on a deux machines, une machine qui tourne sur YonoHost, donc qui est une Debian qui permet de faire de l'auto-hébergement. On a un Peertube dessus, on a notre Forge Git avec lequel on échange un petit peu, et on a notre machine à côté où on a BigBlueButton, et bientôt on aura Rocket Chat qui tournera dessus.
D'accord, donc bel équipement et tout en libre, donc c'est quand même assez remarquable cette démarche où finalement vous étiez parti avec beaucoup d'outils privateurs comme Google, etc. Et puis finalement là vous êtes pratiquement arrivé à un écosystème, on n'est pas loin du 100% libre, donc ça donne très très envie finalement de se faire aider par WebAssos. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret d'accompagnement? Comment ça se passe? Je suis une petite association, là je rencontre des soucis avec le numérique, avec le web, comment ça se passe? Racontez-nous ça.
Alors, je vais prendre un exemple. On a Yovo Togo, qui est une association qui, en Vendée, qui utilise Ubuntu pour reconditionner des ordinateurs et les envoyer au Togo pour. Ils ont équipé 20 classes, 20 classes là-bas. Et donc, cette association nous a demandé de l'aider à faire son site. Donc, on l'a aidé à faire son site. Celui qui tient ça est un passionné de photos. Donc, on lui a montré comment. Avoir une galerie de photos sur Pubigo qui est quand même plus chouette et plus vertueuse en termes de maîtrise des données que d'être, comme je disais tout à l'heure, chez un Flickr ou un Google Photo. Et c'est des gens aussi qui on a permis d'utiliser notre service BigBlueButton, parce que ce qui est très intéressant dans le système BigBlueButton, c'est que vous pouvez l'interfacer avec du WordPress, du Nextcloud, du Moodle. Donc si vous avez des cours en ligne, tout ça c'est des outils libres, hein, que je vous cite, et donc c'est vraiment on peut très bien à plusieurs partager un serveur. Donc c'est ce qu'on a fait avec eux, et une fois que ça a marché, ils nous ont demandé d'aider une autre association qui s'appelle Cap Togo, qui fédère pas mal d'associations dirigées vers le Togo en France, et puis une association qui est carrément donc là-bas, qu'on a aidé également à développer ce site et puis développer le système des newsletters parce qu'ils voulaient transmettre de l'information.
D'accord, donc ça c'est l'exemple qui emblématique pour vous, qui d'une démarche de A à Z et pour laquelle vous avez accompagné une association. Merci pour cet exemple, donc du coup avec effectivement beaucoup de logiciels libres. Dans le chat, effectivement, Olivier Berger nous pose la question des sauvegardes. C'est vrai qu'on a beau avoir un système informatique performant, comment ça s'est pensé les sauvegardes, puisque finalement c'est un peu le nerf de la guerre.
Alors ça c'est un vrai sujet, donc et finalement pas si compliqué que ça. Si on prend le cas de Nextcloud, tout ce qu'on partage dans l'association est dans un dossier groupé, donc tout est commun, hein. On a tous un pouvoir de lecture sur tout ce qui est fait dans l'association, et on a des droits d'écriture qui sont en fonction des bulles qu'a évoqué Alexane, hein. Et ce dossier partagé, c'est très facile quand vous avez Nextcloud de le synchroniser avec un PC qui va vous servir de sauvegarde. Donc vous savez que si demain votre Nextcloud y tombe, sur un PC, toutes les copies de fichiers sont disponibles. Donc ça nous sauvegarde donc la partie Nextcloud, qui est quand même souvent dans une association la partie la plus importante, hein, ce que gère le bureau. Pour nos services web, Quand vous avez du WordPress, il y a des tas de plugins qui existent, donc des extensions que vous allez ajouter qui vont vous permettre de sauvegarder. Donc nous, le CRM, on le sauvegarde sur Nextcloud pour le coup. Donc on a une connexion, alors j'utilise des termes, désolé, mais je suis un fan de technique, mais en WebDAV, qui va nous permettre de remonter notre CRM vers Nextcloud. Et pour les machines qu'on a chez Gandhi, là, c'est l'inverse. On considère que c'est des appuis, les services qu'on met dessus, et entre guillemets, on met pas trop d'importance au fait qu'il reste pérenne ou pas. Donc, on a vraiment cloisonné et on s'est dit voilà, ce qui est important, on le met dans un endroit bien maîtrisé et on le sauvegarde via le système de synchronisation de PC que j'ai évoqué. Ça, c'est à la portée de tout le monde.
D'accord, et donc du coup, vous n'avez pas eu à constater jusqu'à ce jour de grosses difficultés avec des données perdues ?
Non, j'ai pas souvenir que ce sujet ait été abordé un jour. Après, juste pour compléter un petit peu ce que disait Jean-Luc, on se sert aussi de notre hébergeur niveau web pour le site, le CRM et tout ça. On a un hébergeur qui nous offre un hébergement, une sauvegarde, pardon. Donc une sauvegarde dans ses locaux et une sauvegarde en dehors. Bon, après, c'est ce qui est écrit. On a bien vu avec l'incendie d'OVH que c'est pas toujours vrai, mais bon, on a ça aussi en plus de tout le reste qui normalement nous évite de perdre des données, et à chaque mise à jour on sauvegarde bien tout de façon à ce qu'il y ait le moindre problème, on puisse revenir en arrière.
D'accord, merci beaucoup Alexane pour ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour. Alors on avait l'intention d'aborder un peu tous les outils qui composaient le système d'information de WebAssoc. Je pense qu'on l'a passé en revue. Je pense pas qu'il est nécessaire de revenir dessus, sauf si Jean-Luc ou Alexandre vous voulez préciser des choses. On essaiera dans le chat de l'émission de mettre justement les références de tous les logiciels que vous utilisez. On essaiera de le compléter a posteriori. Est-ce qu'il y a des choses à compléter par rapport à ce système d'information là, ou peut-être nous dire finalement quelles sont les dernières étapes à franchir pour tendre vers du 100% logiciel libre en association et montrer peut-être que c'est quelque chose de possible. On a peut-être perdu Jean-Luc. Hein, on a
Pour revenir quand même à ce qu'on a expliqué au départ, le souci à chaque fois qu'on met un système, le choix qu'on a fait quand même, c'est qu'on est sur du web pur, c'est-à-dire que chez nous, on a des bénévoles qui sont sur Mac, on a des bénévoles qui sont sur PC, Windows, et donc déjà tous nos services sont en web sans installer quoi que ce soit sur son ordinateur. Et ce qu'on préconise aussi, c'est que si on veut, et c'est important hein, au niveau de l'empreinte numérique, de plus en plus on prône le fait de réutiliser, comme j'ai évoqué au début de l'émission, des PC obsolètes pour utiliser les services de l'association. Et ça, avec tout ce qu'on met en œuvre, à chaque fois on vérifie bien que ça reste compatible. Voilà. Après, on est quasiment aujourd'hui sur du 100% libre. Alexandre, tu compléteras, mais pour moi il nous manque rien. Néanmoins, on ne tue pas les gens à utiliser telle ou telle chose. À un moment donné, quelqu'un, je pense par exemple aujourd'hui chez Nextcloud, on a en édition en ligne Collabora qui est du LibreOffice. Avec Collabora de LibreOffice, on ne fait pas encore exactement ce qu'on fait avec un Google Sheet. Donc, on a encore 2-3 tableaux qui traînent là-dessus. Mais donc ça c'est pas très très grave, mais à contrario tout notre écosystème a été basculé.
D'accord, oui, donc c'est quand même un bel exemple d'association qui a fait qui a pris la décision un jour de tendre vers le libre et puis qui est en train d'arriver qui a atteint pratiquement cet objectif là quoi, aux quelques exceptions près, mais qui se comprennent complètement hein, puisqu'il faut aussi être à l'écoute des bénévoles et éviter de torturer les bénévoles qui essayent de faire aboutir l'objectif de l'association. J'avais peut-être une question un peu supplémentaire. Comment vous avez vécu finalement l'arrivée du RGPD au sein de l'association ? Comment ça s'est intégré dans tout le processus de l'association ? Parce que ça, c'est aussi venu bousculer des choses qui étaient déjà compliquées dans les associations. Ça a parfois donné des signaux extrêmement compliqués, parfois anxiogènes. Donc comment ça a été intégré par rapport à tout le système d'information de WebAssoc ?
Là, je ne sais pas si on peut parler d'intégration, mais c'est en cours. On y travaille avec un peu de retard hein, pour le coup, mais on y travaille. C'est assez compliqué pour nous parce que donc on est tous bénévoles et il faut des personnes qui aient ces compétences-là. Donc il faut réussir à les trouver. Et là, pour le coup, je pense que c'est l'un des points sur lequel on pêche un petit peu. On y travaille pour protéger tout ça, surtout qu'on a un CRM avec, avec des données personnelles du coup dedans. Donc on y réfléchit fort, mais voilà, je pense qu'on ne peut pas, pas trop, en, enfin, on n'a pas grand-chose à en dire pour l'instant.
D'accord, merci. Et par rapport à...
Oui, comme l'a dit Alexane, hein, c'est notre gros travail.
Je t'en prie, Jean-Luc.
Oui, donc en fin de compte, le ça reste le gros pavé qu'on a à travailler. C'est un gros morceau. On a déjà fait un pack et de séparer déjà notre frontal et notre CRM qui sont plus sur les mêmes sites WordPress, mais il y a encore sur la gestion des droits, bah, il faut décliner ça à toutes les bulles de l'association, donc c'est un gros boulot.
D'accord, on approche de la conclusion de l'émission. Peut-être une question avant la conclusion. Est-ce que, enfin, comment vous travaillez en partenariat avec d'autres associations qui travaillent sur ces sujets-là, alors l'informatique, le numérique, le libre, ou même les autres associations qui travaillent sur la question du numérique en général? Quels sont vos partenaires en fait?
Jean-Luc peut-être.
Alors on a un site, si vous allez voir, benevola.fr, donc qui est un premier espace. Où on échange avec des associations qui nous ressemblent. Donc il y a Passerelle et Compétences, il y a bénévolat.fr. Donc ça, c'est un collectif, c'est un premier espace d'échange entre des homologues, on va dire. Et on a un deuxième espace d'échange, et là-dessus je redonnerai après la main à Alexandre puisque c'est presque elle qui est plus dans ce sujet-là, qui sont tournés vers d'autres associations comme Simplon, donc des écoles, comme Latitude, qui regroupe des offres de, pour épauler des associations comme nous, parce qu'on a parfois besoin d'aide, ou Chérit, tout ça c'est des collectifs qui vont proposer des profils type étudiants prêts à aider des associations.
D'accord, alors du coup c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai oublié peut-être une question dans la présentation de l'association tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement beaucoup de bénévolat, et, enfin seulement du bénévolat d'ailleurs, mais on n'a pas évoqué le modèle économique de WebAssos, quelles sont finalement vos ressources, outre peut-être, enfin, peut-être les adhérents, et puis c'est pareil, quand je suis une association que je sollicite WebAssos, entre guillemets, j'ai droit à combien de temps d'accompagnement, à quelle forme d'accompagnement, est-ce que vous pouvez préciser tout ça?
Oui, on peut. donc du coup, on propose deux différents types d'accompagnement. Il y a la partie formation. Donc on va proposer des formations ou des ateliers sur un sujet bien précis. Donc ça peut être l'utilisation de certains GAFAM, mais aussi des outils libres, comme Nextcloud et Matomo, par exemple, qu'on propose assez facilement. Donc là, c'est un expert qui donne entre une heure et trois heures de son temps quand il est dispo. Et donc on donne la date aux associations et elles peuvent s'inscrire. C'est gratuit, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier accompagnement. Et pour le deuxième, donc c'est du renfort web. C'est-à-dire que là, c'est les associations qui vont venir remplir un petit formulaire sur notre site internet, qui vont nous dire, par exemple, eh bien, j'ai besoin de refaire mon site internet, j'ai besoin d'aide pour mieux comprendre les réseaux sociaux, pour les stats, pour du contenu, pour différents sujets. Et donc, on part du principe qu'on aide ponctuellement. Donc on essaye de pas dépasser plus de 7 jours d'intervention auprès d'une association. C'est pas forcément 7 jours consécutifs, ça peut être 7 jours répartis dans un mois ou plus. Et donc on va aider, comme je disais tout à l'heure, des petites ou des moyennes associations qui vont pas avoir les moyens de se payer des prestataires et qui travaillent dans les domaines de l'environnement, de l'écologie, de la solidarité, enfin tout ce qui est humanitaire. Et on a ouvert un petit peu à tout ce qui est éducation depuis la crise du Covid.
D'accord, merci. Alors, il y a une question dans le chat qui pose la question de l'accessibilité web. Est-ce que vous proposez des formations autour de ce sujet-là?
Je n'ai pas le calendrier et toutes les formations qu'on propose, mais je sais qu'on en parle par contre très souvent quand on fait des événements, notamment quasiment à chaque WADEY, on parle d'accessibilité et on a des petites mini-conférences web qui vont avoir lieu sur ce thème-là. Ça m'étonnerait pas qu'on propose quelques formations sur ce sujet, mais là je peux pas trop m'avancer.
D'accord, merci. Alors du coup, tout à l'heure,
j'ai eu plusieurs fois Tanaguru qui est un outil libre, qui sont intervenus justement sur le sujet accessibilité, donc qui sont intervenus sur des journées ou des formations pour nous.
D'accord, très bien. Alors tout à l'heure, j'ai posé deux questions et c'est pas bien d'en poser deux en même temps. C'était la question du modèle économique. Du coup, comment vous financez l'association avant de conclure?
Grâce à Jean-Luc qui est un très bon commercial et qui va boire des cafés chez les hébergeurs. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
D'accord. Donc finalement, oui, vous n'avez pas des besoins financiers importants.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que pas du tout. C'est-à-dire que déjà nous, on est tous bénévoles, donc ça résout la question. Et après, nos services d'hébergement. Ce que j'ai fait à chaque fois, j'ai pris un besoin. Et j'ai entre guillemets démarché des hébergeurs pour savoir qui était prêt à nous aider, et ce qui est souvent d'ailleurs assez marrant à voir, c'est que c'est souvent des gens qui sont assez proches du même monde. Je prends au-dessus, c'est les gens qui hébergent la communauté WordPress de France. Gandhi, on connaît leur position, et Euronet, c'est des gens qui sont très très proche de beaucoup d'associations du centre de la France. Donc ces gens-là nous ont offert entre guillemets leur service. Ce qu'on a quand même à chaque fois regardé, c'est que les prix qu'ils pratiquent restent des choses accessibles pour des associations. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait faire la même chose que nous, bien entendu, à un moment donné, ça ne marchera pas. Mais entre guillemets, allez, avec 100 euros par an, vous êtes capable d'héberger tous vos services. C'est des hébergeurs dont c'est le métier. Donc il faut mettre un peu d'euros sur la table pour passer sur le libre. De toute façon, il ne faut pas vous voiler la face. Si vous avez des services gratuits chez les GAFA, c'est que la rémunération est ailleurs. Alors ça, c'est un message qui a déjà été dit, mais oui, c'est une évidence.
Mais c'est toujours bien de le rappeler. Alors, pour conclure, peut-être, si vous deviez donner des conseils à des associations qui auraient envie de se lancer dans la migration vers le libre, en 2 minutes, puisqu'après, on va poursuivre l'émission.
Moi, rapidement, je dirais accrochez-vous. Il y a des informations sur Internet partout. Il y a une communauté qui est prête à répondre à toutes vos questions. Il faut de la curiosité et du temps, mais ça vaut le coup.
D'accord, Jean-Luc ?
Alors, je dirais la même chose, c'est-à-dire oser, c'est-à-dire n'hésitez pas, en parallèle des services que vous utilisez actuellement, d'aller chercher une autre solution libre chez un hébergeur qui vous semble sympa. Testez ça, mettez quelques euros sur la table pour ça, et faites-vous une idée au bout de 6 mois, 1 an, et vous verrez, vous serez conquis.
D'accord, merci. Et du coup, on peut aussi évidemment s'adresser à WebAssos pour bien appréhender comment ils ont fait.
Il n'y a aucun souci pour nous contacter et pour discuter de ça. C'est toujours un réel plaisir.
Merci Alexane, merci Jean-Luc. Le mot de la fin ? Ah, il y a peut-être Isabella qui va prendre la parole, qui avait une question à poser.
Oui, je me demandais si WebAssoc a un rôle pour faciliter la mise en relation entre les différentes associations que vous accompagnez, parce que j'imagine qu'il y a, un vrai trésor, entre guillemets, c'est-à-dire il y a plein d'associations qui auraient suivi vos conseils, vos accompagnements, qui pourraient s'entraider une fois que les 7 jours, les fameux 7 jours d'accompagnement expirés. Est-ce que vous facilitez cette mise en relation, peut-être avec une liste de discussion, un forum ou autre chose?
C'est une très bonne idée, je la note, et on va y réfléchir. Non, on n'a rien actuellement dans ce genre-là. Tout se base en fait sur la mémoire des bénévoles qui vont se dire, ah oui, on a peut-être une asso qui a fait la même chose, donc c'est pas fiable à 100%, mais ça peut être une bonne piste à creuser. En tout cas, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et c'est là justement où le CRM prend tout son sens et peut permettre de créer ce type de regroupement.
Très bien, on va s'arrêter là pour.
Sophie, un mot de la fin, pas de la fin.
Mot de la femme. Ouais. Alexandre, la présidente.
Voilà. Un nouveau mot de la fin, c'est-à-dire qu'on a encore un petit peu de temps. Sinon, je peux relayer une autre question qui a été postée par Chocolisa, c'est-à-dire moi, sur le salon, et je me demandais en fait si les associations ont besoin d'accompagnement pour d'autres aspects liés à l'informatique hors web. Vous les aidez aussi là-dessus ou vous les dirigez vers d'autres organisations? Et dans ce cas-là, quelles organisations?
On va plutôt les orienter dans ces cas-là vers d'autres associations. Nous, on est vraiment dans le domaine du web, on ne fait pas de terrain. Ce qui est des fois un petit peu compliqué pour les bénévoles qui ont envie de rencontrer les gens. Mais nous, on n'en fait pas. Donc oui, on va plutôt essayer de leur donner des pistes. Ça dépend. Il y a beaucoup de monde. Ça va dépendre du bénévole qui va prendre en charge la demande pour faire le refus et essayer de l'orienter ailleurs. Mais ouais, on essaie d'avoir un nom, mais qui apporte quand même des infos. C'est pas toujours évident, donc on cherche aussi des fois des infos et des gens vers qui renvoyer.
Merci beaucoup pour cette réponse, Laurent. Bah oui, on est arrivé effectivement à la fin de cet échange. Je remercie beaucoup Alexane Troubert et Jean-Luc Maé pour avoir participé à notre émission et à Laurent Costi pour avoir animé cet échange. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter un autre morceau de L'Âme Spirale. Le titre est Le Déménagement. L'artiste nous dit que c'est une référence à la crise de 2008 et un parallèle avec un déménagement. Donc, soyez attentifs au texte. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Qu'il y ait des boîtes si grandes qu'elles puissent même pas couler. Je comprends pas qu'il y ait des boîtes si lourdes qu'on puisse même plus les porter. En mettant tout dans des petits cartons flexible. Je vais leur tailler un patron, ça va faire un carton. Ils comprennent pas quand on a la rage, ça déménage. La page, alors on se la partage. Je vais leur tailler un patron, ça va faire un carton. Je vais leur tailler un patron, ça va faire.
Nous venons d'écouter Le Déménagement par L'Âme Spirale, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Donc l'artiste derrière le projet L'Âme Spirale qui n'existe plus à présent. Le projet n'est pas l'artiste. L'artiste qui est derrière ce projet s'appelle Thomas Lambert. Nous l'avons contacté et il nous dit que pour l'album dont sont tirés les trois morceaux que vous avez écoutés aujourd'hui, il a samplé lui-même toute la batterie sur un vieux son de batterie. Et il a ensuite produit avec ses sons. Je vais laisser parler notre
Retrouvez
voix.
Vous retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
C'était la voix de Laure Élise Daniel, nos nouveaux jingles pour l'émission. Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Que libérer d'autre que du logiciel ?» avec Isabelle Carrère de l'association Antanac. Le thème « Une nouvelle vision des activités d'Antanac ». Je sais qu'Isabelle a invité une autre personne à participer à la conversation par téléphone. Je laisse la parole à Isabelle pour parler de cette chronique d'aujourd'hui.
Merci. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Bah oui, aujourd'hui, c'est un peu particulier. En fait, je me suis dit que c'était bien que des gens nouveaux, entre guillemets, à Antanac puissent en parler aussi et exprimer des choses telles qu'elles sont vues. Parce que nous, on est sur un chemin qui est... voilà, on connaît notre affaire. Ça fait 6 ans maintenant qu'Antanac existe. Et du coup, Naomi a bien voulu... répondre à ça et parler, puisque donc elle vient d'arriver à Antanac dans le cadre d'un service civique. Je pense qu'elle est au téléphone là, Naomi ?
Oui, tout à fait.
Bonjour. Bon, ben voilà, merci beaucoup du coup de faire ce dialogue là avec moi. Ça fait quoi ? Ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu es arrivée là ? Je sais plus combien de temps.
Ouais, ça fait 2 semaines déjà.
Ouais, ok. Et du coup, avant d'arriver à Antanac, la vision que tu en avais de ce qu'on faisait, nous, à l'asso, tu pourrais l'exprimer comment ?
Avant d'arriver, pour moi, c'était déjà un peu flou, parce que c'est vrai que tout le domaine du numérique, moi, je n'étais pas spécialement intéressée par ça. Ce n'était pas forcément un domaine avec lequel j'étais familiarisée aussi. Donc voilà, mais j'avais très envie d'en savoir un peu plus. Et puis voilà.
Ok. Et alors tu me disais là l'autre jour que tu utilisais déjà toi des logiciels libres, mais des logiciels, et que tu n'avais pas de vision sur les systèmes d'exploitation avant d'arriver, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Tu utilisais quoi ? Des choses en bureautique classique ?
Ouais, j'utilisais de la bureautique classique, mais ouais, principalement. Mais surtout, oui, ça m'arrivait, par exemple, plutôt que d'avoir Photoshop, d'utiliser autre chose que Photoshop, que je ne pouvais pas du tout me payer, que je ne peux toujours pas me payer. donc voilà, quand j'essayais de passer par des choses gratuites, voilà, par des systèmes gratuits, des logiciels gratuits.
D'accord, et donc du coup, ce lien entre le libre, c'est gratuit, c'était quelque chose qui te paraissait évident, toi, c'est ça ? C'est-à-dire que le libre, tu y es passé, comme beaucoup de gens, par la case de « je ne peux pas payer le reste de ce qui est propriétaire ».
Oui, c'est ça, et puis surtout que j'avais un usage, sauf pour les logiciels de bureautique, mais par exemple, les logiciels de photomontage, c'était un usage ponctuel, c'était pour un cours, je savais que j'allais pas le réutiliser dans la vie de tous les jours, donc c'est vrai que ça a été la solution la plus appropriée, enfin j'ai trouvé en tout cas, donc voilà.
D'accord. Et de là aussi, d'où tu étais, toi, dans l'utilisation ou les pratiques que tu avais, la notion de GAFAM ou la question de tous ces sujets-là, et ce qu'on en dit aussi bien ici dans Libre à vous qu'ailleurs, tu en avais une... c'était une réflexion, c'était un point d'intérêt de vigilance pour toi ou pas du tout ?
Ça ne l'était pas spécialement.
Ouais, c'est ça.
En fait.
Ouais.
Parce que je n'ai pas forcément été sensibilisée plus que ça. Et du coup, c'est complètement une découverte aujourd'hui, en fait. Et voilà.
Ça veut dire qu'au sein d'un parcours, tant dans un lycée ou dans l'université ou dans des écoles, etc., il n'y a pas du tout ça. Toujours pas, c'est ça qu'on
non,
peut dire ?
Toujours pas. Uh-huh. Non, pas du tout. Uh-huh. Non.
Ok, donc on demande aux gens d'utiliser tel outil parce que c'est celui-là qui semble le plus approprié, mais on ne va pas réfléchir à autre chose.
Okay. C'est ça, exactement.
C'est vraiment intéressant. Et alors du coup, en arrivant à Antanac, et depuis là, j'ai vu qu'en fait, tu es venu pour plein de choses variées. C'est vrai que les services civiques à Antanac, on les ouvre en disant, en fait, les gens vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, tu t'es lancé assez rapidement, ça m'a assez épaté, dans l'installation en fait, de systèmes d'exploitation sur des ordinateurs, des fixes, des portables et tout ça. Tu peux raconter ça un peu aux auditeuristes ?
C'est vrai que comme j'arrivais aussi dans une association, dans votre association du coup, qui fonctionne par le don de matériel informatique, que je savais que vous les reconfiguriez, etc. Moi j'avais envie d'apprendre. Voilà, c'était aussi une curiosité, c'était un peu le challenge aussi de s'intéresser à des choses auxquelles j'ai pas forcément l'habitude de m'intéresser, ou ne serait-ce que voilà, ouais, d'avoir cette curiosité-là, en tout cas dans le domaine informatique, voilà, ça n'a jamais été une curiosité qui était faite de ma part. Voilà, et là je me suis dit, ok, faut que je me lance, et puis voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai voulu tout de suite apprendre, et je me suis tout de suite penchée avec les bénévoles de l'association, et qui m'ont expliqué, avec leur langage un peu barbare de temps en temps, où je comprends pas tout, mais j'essaye de faire au mieux, et voilà. Mais c'est une expérience très cool, en tout cas.
Mais quand je dis que tu m'as appelé, c'est pour de vrai, c'est-à-dire que c'est quand je te vois là, au bout de très très peu de jours, être sur un terminal en train de faire taper des choses, apéter, tirer, get, update, machin, comme si tu avais fait ça toute ta vie, je trouve ça assez chouette, quoi. C'est vraiment bien. C'est cool.
Merci. Mmh. C'est cool aussi.
Non, mais du coup, là où ça m'intéresse en termes de libération de pratique, hein, puisque c'est le sujet de la chronique d'Antanax, c'est qu'en fait, ce dont on s'aperçoit quand on voit ça comme ça, c'est que c'est possible, quoi. Je veux dire, par là, que c'est pas. S'il y avait une volonté, à droite ou à gauche, quelque part, dans les. Je disais tout à l'heure, je parlais des universités, donc dans le cadre des formations, mais même pas simplement, on pourrait, en fait, relativement simplement mettre à la portée de beaucoup plus de monde ces pratiques-là, voilà, et d'expliquer ce que c'est qu'un système d'exploitation, d'expliquer ce que c'est qu'un navigateur, un moteur de recherche, etc. Enfin bref, c'est pas aussi sorcier. Je dis pas qu'on sait tout faire, nous en TANAC évidemment, mais je veux dire, on n'est pas tous des informaticiens, informaticiennes, mais voilà, du coup c'est possible, quoi.
Oui, c'est tout à fait possible, et surtout qu'on a en arrivant à la fac, par exemple, on doit passer un CI2I, ça s'appelle, et donc ça, normalement c'est censé on est censé voir les bases, en fait, de l'informatique, etc.
Ouais.
Mais c'est pas du tout fait de cette façon là, enfin.
Et du coup, qu'est-ce qui est abordé là dedans au niveau de l'informatique ou du numérique, qu'est-ce qu'on donne comme base?
En fait, c'est plus l'utilisation de l'ordinateur en soi. Uh-huh. Et des outils, en fait, hein, qui sont possibles d'utiliser sur l'ordinateur, comment utiliser un moteur de recherche, voilà, le traitement de texte, etc. Mais c'est pas tant.
D'accord.
C'est pas tant, le système d'exploitation. On voit pas tout ça, quoi. Uh-huh. C'est pas ça qui est expliqué du tout.
Ouais, donc, c'est quand même étonnant, hein, 2021, que ça soit toujours pas fait. C'est vraiment pour moi un mystère, ça. C'est-à-dire que c'est pas. Je comprends bien, hein, les lobbying et les mais en termes de connaissances, d'apprentissage, d'ouverture de compétences, etc. Je vois pas pourquoi c'est pas fait. C'est très étrange. Ok. D'accord. Et donc l'autre jour, tu as participé aussi à un soutien à des personnes qui, elles, sont vraiment en difficulté là, dans le cadre de cette salle OLA qu'on a mis en place, l'ordinateur en libre accès accompagné. Ouais. Et donc du coup, ça, tu étais à l'aise aussi avec ça, d'aider les gens à faire.
Ouais. Alors oui, ça a été bon. En tout cas, oui, j'ai été à l'aise. Mais c'est vrai que c'est plus quand il y a eu plusieurs personnes en même temps. Voilà, parce qu'on est avec une personne, une autre personne, en fait, se permet un peu de nous couper pour qu'on aille l'aider. Sauf qu'on est avec une personne, on a commencé des démarches avec une personne. Voilà. Uh-huh. C'est plus au niveau de la gestion, en fait, où ça a été un peu compliqué. Vous pouvez attendre 5 minutes, s'il vous plaît, parce que là, en fait, il y a trop de gens qui me demandent plein de trucs. Mais sinon, oui, au niveau, au niveau des explications, etc. A été. Je pense que ça va, ça s'est bien passé.
C'est donc chouette. Ouais. Et tu me disais que tu étais d'accord aussi éventuellement pour qu'on essaye de monter des ateliers animés ou des choses comme ça sur ces sujets-là, pour soutenir aussi l'appropriation des connaissances par d'autres personnes.
Ouais.
Du coup, tu as une idée de sur quoi ça, tu pourrais le faire? Non, pas encore.
J'y ai pas encore réfléchi.
Ok, non mais t'as le temps, hein, je veux pas. J'exagère, je sais, je vais un peu trop vite. non mais c'est génial. Écoute, merci beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant de. En fait, ça veut dire aussi ça que ça fonctionne d'une certaine manière. C'est pas juste pour nous congratuler à Antanac, quoique de temps en temps ça fait du bien, mais je veux dire que c'est aussi pour se dire que si nous on peut le faire là, dans ce petit collectif, dans une asso de proximité, des gens qui ont plus de temps, plus de moyens, etc., que nous pourraient le faire. si tant est qu'il le veuille, qu'il et elle le veuillent. Et donc, ben voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on arrive à ça comme conclusion.
Ouais, je pense que c'est une démarche aussi, enfin, c'est des démarches que n'ont pas forcément les institutions en fait en général, et donc c'est pour ça que ça continue à être assez rudimentaire comme apprentissage.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà.
Bon, bah écoute, on espère en tout cas, nous, que dans le cadre de ton service civique, on va pouvoir te faire découvrir d'autres logiciels libres, puisque on a aussi les chroniques numériques, donc ces petits films vidéo là que tu as pu voir, oui, ou dont tu as pu entendre parler. Puis ça peut être l'occasion aussi d'utiliser d'autres types de matériel. Super. Bah écoute, merci beaucoup Naomi d'avoir accepté de participer à cette petite chronique avec moi. Et puis, bah donc à demain. Hein. Nous, on se voit,
oui,
Tanak,
à demain.
Salut, bonne soirée, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Je remercie à mon tour Noémie et Isabelle Carrère d'Antanac. Et je vous dis à la prochaine chronique d'Antanac. Merci beaucoup
à
d'avoir
très
participé.
Bientôt. Merci à l'équipe de l'April.
Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je vous rappelle que la radio Cause Commune, la bande possible sur la bande FM sur 93.1 en Ile-de-France, est du midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. On m'a fait remarquer que Jean-Luc de Webassoc tout à l'heure nous dit que le super salon de Cause Commune est sous Rocket Chat avec un super thème d'accueil. Voilà, donc je tenais à le dire. Et passons donc pour ce qui concerne les annonces. Donc il n'y a pas d'annonce particulière en fait à faire aujourd'hui, mais nous vous invitons comme d'habitude à aller sur l'agenda du Libre. Vous pouvez retrouver tous les événements ou la plupart des événements autour du Libre, ainsi que des organisations comme Antanac par exemple qui peuvent vous aider à libérer votre informatique. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à cette émission. Vincent Calame, Laurent Costi, Alexandre Troubert, Jean-Luc Mahé, Isabelle Carrère, Noémie, l'invité d'Antanac, je ne connais pas son nom de famille, désolé, aux manettes de la régie, aujourd'hui mon collègue Étienne. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langehein, Sylvain Kuntzmann, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org, aprl.org, toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le mardi 18 mai 2021, toujours à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 18 mai et d'ici là, portez-vous bien.